Bonjour à tous. Désolé du petit délai. Habituellement, je me connecte à 8h18, mais j'avais quelques petites tâches à terminer avant de vous rejoindre aujourd'hui, le lundi 7 février 2022. Bonjour à Marie-Marthe. Bonjour à Lucie. Vous êtes déjà 11, mais je ne vois pas tous les noms. Donc, si vous écrivez un petit mot dans la zone commentaire, je pourrai vous saluer. Bonjour à Rachel. Et bien heureux que tu sois avec nos bien-aimées sœurs, Auxilia, Dora et Mona. Qu'on salue et qu'on bénit, bien entendu. Bonjour Guy. Bonjour Sylvia. Bon matin à mon père, à ma mère assurément. Hello Pastor David, God bless you. Bonjour à Denise et à Gérard. Good morning Sylvia. Bonjour à la sœur Nancy. Alors je m'excuse du petit retard, j'étais en train de compléter une tâche. Je collabore avec un ministère qui travaille auprès des députés de l'Assemblée nationale du Québec. Et deux ou trois fois par année, on me demande de rédiger certaines prières à l'égard ou envers ces députés ou ouais, pour ces députés. Donc, et les prières par la suite sont diffusées. On est plusieurs, là, on est une vingtaine à écrire pour l'ensemble des députés, mais après ça, ces prières sont partagées quotidiennement sur la page Facebook du ministère en question qui s'appelle Prions Québec. Donc c'est un ministère qui prie pour les députés et les membres de l'Assemblée nationale. C'est un ministère pan-canadien, donc il existe le même pendant dans toutes les provinces et de surcroît cela pour l'Assemblée législative ou le Parlement à Ottawa. Mais voilà, donc moi je collabore avec ceux qui sont à Québec. Donc j'avais des prières à terminer pour envoyer aussi pour aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je suis un peu en retard. Mais on n'est pas vraiment en retard parce qu'il est juste 8h28. Bonjour Daniel, que Dieu te bénisse. Bonjour Myriam. Bonjour Donald. Bonjour Jude. Bonjour Caridad. J'attends encore quelques instants parce que j'ai une annonce à faire tout à l'heure. Bonjour à la belle-mère. Shalom à vous. Bonjour Francine, que Dieu vous bénisse. J'étais tellement pris que je me suis pas amené de café ce matin. En fait, j'en ai bu un très tôt puis j'en ai pas repris par la suite. Donc, au pire, j'étendrai mon bras, je vois la bouteille d'eau de Daphné qu'elle a laissée sur la table que je pourrai récupérer tout à l'heure au besoin. Hermana Susana, que Dios la bendiga. Merci Francine. Alors, il y a quelques petites annonces importantes que je vais faire et probablement je vais les répéter tout à l'heure avant qu'on ne débute. Avec notre thématique de cette semaine, vous rappelez premièrement qu'à partir d'aujourd'hui, on peut accueillir des gens à l'église lors de nos rassemblements. Donc le mercredi soir pour l'étude biblique, le vendredi soir pour l'assemblée jeunesse, de même que le dimanche matin, on peut donc dorénavant recommencer à accueillir des gens. Mercredi soir et vendredi soir, pas la peine de s'inscrire. Par contre, quand vous arrivez à l'église, il y a bien sûr les normes qui s'appliquent, les normes sanitaires qui s'appliquent, et puis la présentation du passeport vaccinal pour accéder au bâtiment. Le dimanche, par contre, il faut s'inscrire. On est plus nombreux, il faut tenir un registre. S'il y avait une éclosion quelconque, le gouvernement nous demanderait de contacter toutes les personnes présentes. Donc, ça nous prend de tenir un registre. Alors, par conséquent, pour faciliter la tâche, on procède encore avec les inscriptions, étant donné même que les places sont limitées, environ 125-150 personnes, quelque chose comme ça, selon la capacité d'accueil qu'on a. Donc, vous pouvez vous inscrire, que ce soit par courriel à l'église, donc secrétariat EAJC, en un seul mot, pas d'accent, secrétariat EAJC, un seul mot, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Alors, vous nous donnez votre nom et le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent. Si vous voulez le faire par boîte vocale, vous appelez au secrétariat de l'église. Et même si le message n'a pas encore été changé, vous laissez quand même votre nom, le nom de toutes les personnes qui vous accompagnent. Et vous nous laissez votre numéro de téléphone où on peut soit vous envoyer un texto, soit vous appeler. Encore là, c'est pour confirmer votre réservation ou votre inscription pour le culte de dimanche. Donc ça, c'est la première annonce. Donc inscription pour le culte du dimanche qui en cours déjà depuis hier midi. De surcroît à cela, mercredi soir et vendredi soir pour les jeunes, il n'y a pas d'inscription. Ceux qui auraient peur de manquer l'assemblée parce qu'on est en présentiel, sachez que même si on est en présentiel, on continue à diffuser sur nos plateformes internet régulières. Donc si quelqu'un n'avait pas le passeport vaccinal pour accéder au bâtiment de l'église, vous auriez malgré tout accès à l'assemblée à travers l'internet. Donc ça, c'est la première annonce. Deuxième annonce, ce soir vous avez rendez-vous avec le pasteur André pour le cours sur le livre aux Éphésiens, et c'est à 19h sur toutes les plateformes de l'église. Dernière petite annonce, l'équipe d'administration de l'église a envoyé hier par courriel tous les reçus de charité pour les personnes qui ont donné durant l'année 2021. Donc tous ceux qui ont donné dîmes ou offrandes pendant l'année 2021, hier, on vous a envoyé par courriel. Pour ceux qui avaient remis leur courriel, on vous a envoyé les reçus pour fin des ponts par courriel. Pour les autres, les reçus partiront mercredi à la poste. Toutefois, si certaines personnes n'avaient pas donné leur courriel et qu'ils voudraient recevoir, ils peuvent nous envoyer donc un message. Encore là, c'est le même courriel que l'église, que l'inscription, c'est secrétariat EAJC à commercial@gmail.com. Donc secrétariat EAJC à commercial@gmail.com. Si vous écrivez avant mercredi, donc on pourra vous envoyer, au lieu de l'envoyer par la poste, on pourra vous l'envoyer par courriel, ça sauvera quelques sous. De surcroît, ça nous permet aussi peut-être de mettre à jour vos adresses courriel, de mettre à jour peut-être aussi vos adresses civiques si vous nous envoyez donc tout cela. Donc, comme je vous ai dit, les reçus de dîmes et d'offrandes pour 2021 ont été envoyés par courriel pour tous ceux de qui nous avons une adresse courriel. Les autres vont le recevoir par la poste si effectivement on a votre adresse civique, en espérant encore là que vous n'avez pas déménagé au cours des derniers mois et que l'adresse que nous avons est toujours la même, est toujours la bonne. Voilà, alors c'est tout ce que nous faisons comme annonce pour débuter, et puis on va passer maintenant tout de suite à la prière et après ça, la lecture et l'enseignement du jour. Alors merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, merci pour ce privilège que nous avons de nous arrêter en début de journée pour méditer ta parole, pour lire, pour étudier, pour partager et pour recevoir cette nourriture si importante pour notre âme et notre esprit. Alors ce matin, parle-nous, instruis-nous, ouvre notre entendement sur ta parole et en toute chose, non pas notre volonté, mais ta volonté en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom de notre Sauveur, le seul qui soit, Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous toujours dans Matthieu au chapitre 28. Je vais lire cette fois-ci du verset 16. En fait, je vais lire le verset 10, puis je passerai tout de suite au verset 16 et on continuera jusqu'au verset 20. Donc, Matthieu 28, le verset 10, puis de 16 à 20. La Bible nous dit, « Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et on passe maintenant au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et je relis les versets 10 et les versets 16. Au verset 10, Jésus s'est présenté aux femmes qui sont venues porter les aromates et les parfums le jour de sa résurrection. Il les croise en chemin de retour vers la maison où sont rassemblés tous les disciples. Et Jésus dit à ces femmes, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Le verset 16 nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. On est toujours dans cette thématique ou dans cette préparation à la thématique 2022, à la thématique pour cette nouvelle année. La semaine dernière, on a vu certaines caractéristiques de celles ou de ceux qui veulent voir Christ. Cette semaine, on va un peu plus loin en parlant de certaines caractéristiques du disciple qui cherche à plaire à son maître. Donc, certaines caractéristiques du disciple qui cherche à plaire à son maître, soit Jésus. Pourquoi le disciple? Ben parce que, contrairement à la première partie du chapitre où ce sont des femmes qui sont les personnages principaux ou les intervenantes principales de l'événement, dans la fin du chapitre, là où Jésus va s'adresser à des gens, il va s'adresser maintenant à ses disciples. Au verset 10, les femmes ont eu la recommandation de dire aux frères, de dire aux disciples d'aller jusqu'en Galilée et que c'est là qu'ils verraient Jésus. Au verset 16, on voit l'accomplissement ou on voit la réponse des disciples. Et on se retrouve au verset 16 avec 50 jours. 40 ou 50 jours, faudrait que je suis un peu mélangé là. En tout cas, plusieurs semaines après la résurrection, lorsque Jésus va être élevé vers le ciel, on appelle ça l'ascension. Donc, le jour de l'ascension, Jésus se présente sur la montagne qu'il avait désignée et il se présente à ses disciples et il va leur donner la grande commission, ce passage qui nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais les disciples sont allés dans cette montagne. Alors, qu'est-ce que le terme « disciple » ? Tout d'abord, « disciple », c'est le terme grec « mathetes ».« Mathetes », M-A-T-H-E-T-E-S. Je répète, « disciple », »,« mathetes », M-A-T-H-E-T-E-S. Souvent, lorsque on parle à quelqu'un d'un disciple, on a cette image que c'est un terme religieux. À la base, disciple n'est pas du tout un terme religieux. Aujourd'hui, étant donné l'Église, étant donné la tradition religieuse environnante, disciple est devenu essentiellement un terme avec une connotation religieuse, voire même dans certains cas judéo-chrétienne. Dans la culture de l'époque, ce terme disciple était beaucoup plus large que simplement une question religieuse. En fait, ma thétèse voulait dire un étudiant, un élève ou un apprenti. Un étudiant, un élève ou un apprenti. Et la première chose que tu dois savoir, la première chose que je dois savoir, c'est que nous demeurerons toujours des disciples. Au-delà du fait que tu deviennes même quelque chose d'autre, dans le sens au-delà que tu acquières ou que tu reçoives un ministère de la part de Dieu, même si les gens pouvaient t'appeler pasteur, maître, enseignant, docteur, évangéliste, prophète ou autre terme qu'on accorde habituellement dans le fonctionnement d'une église, chacune de ces fonctions, à la base, ce sont des hommes, des femmes qui sont tout d'abord des disciples. Pour l'éternité, nous serons, oui, des pécheurs rachetés, comme j'aime à vous le répéter, des pécheurs qui ont été graciés, hein, qui profitent de la grâce qui leur a été faite, mais de surcroît à ça, pour l'éternité, le croyant demeure vis-à-vis de Dieu un disciple. Au-delà du titre que je peux porter, que ce soit pasteur senior, que ce soit dans certaines églises lorsqu'on me présente et que je vais enseigner, on me présente avec d'autres appellations. Peu importe quelle est l'appellation qu'on me fait ou qu'on me donne, à la base, je dois me rappeler que je suis un disciple, donc un élève, un étudiant auprès de Jésus. Nous ne connaîtrons jamais parfaitement tant que nous serons de ce côté-ci de l'éternité. Voilà pourquoi j'aime à dire à l'occasion qu'un chrétien est un étudiant dans la formule étude permanente. C'est un étudiant qui, jour après jour, se doit d'apprendre. Le jour où j'aurai l'impression que je sais déjà, je suis en danger. Je suis en danger d'orgueil, je suis en danger de stagnation, voire je suis en danger sur le long terme de régression. Quelqu'un qui garde cette attitude d'étudiant, d'élève auprès du maître Jésus, il garde aussi cette humilité propre à un étudiant. Lorsque je sais que je suis disciple, je comprends que je ne suis pas professeur. Et par conséquent, je reste avec une certaine humilité, avec une certaine réserve. Lorsque je comprends que je suis étudiant, je comprends aussi que je ne suis pas tout, que je ne sais pas tout. Et le grand malheur qui arrive très souvent avec le disciple néophyte, que ce soit néophyte parce qu'il est jeune dans sa pratique du discipulat, que ce soit parce qu'il est jeune au niveau de l'âge et au niveau de l'expérience, que ce soit parce qu'il est jeune au niveau de la maturité qu'on est appelé à acquérir, très souvent ce qui se passe, c'est que lorsque je commence à savoir des choses, j'ai l'impression que je sais tout, ou je me compare avec ceux qui sont autour de moi et j'ai l'impression que je sais plus qu'eux. Il se pourrait que sur certains domaines, tu saches plus que quelqu'un d'autre, mais tu restes malgré tout un disciple, tu restes malgré tout un étudiant. Et celui qui est à côté de toi, qu'est-ce qu'il est aussi? Un étudiant. Il n'y a pas de fierté à avoir, de dire, moi, je suis déjà rendu en sixième année. C'est juste le temps, l'expérience et la soumission et l'obéissance au maître qui t'amène à la sixième année ou qui t'amène, comme on a dans les classes en France, au collège ou au lycée. Le fait que tu gradues vers une année supplémentaire, ce n'est pas parce que tu as fait des exploits, c'est parce que tu t'es soumis à l'enseignement qui t'a été donné. Et il serait trop bête, il serait trop triste que l'orgueil te prenne, que l'orgueil te saisisse, et au moment où tu es supposé progresser, que Dieu te regarde en disant non, tu ne peux pas franchir cette étape, tu ne peux pas aller dans la prochaine classe parce que tu es en train de rater la leçon sur l'humilité. on est tous passés dans un tel danger. Assurément, et je ne vous mentirai pas, j'ai eu moi-même mes temps d'orgueil, mes temps d'emportement, que ce soit au niveau théologique, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit même au niveau strictement connaissance intellectuelle. À un moment donné, on arrive au collège, on apprend des philosophes, on apprend des grands penseurs. J'étais en littérature, donc tous les grands penseurs de la littérature française et de la philosophie ont meublé mon adolescence. Et à un moment donné, on regarde ceux qui sont autour de nous. Et très souvent, ça se passe davantage auprès de nos parents, auprès de nos frères et de nos sœurs. Et on devient tout simplement insupportable et tout simplement la tête enflée, orgueilleux de toutes parts. Et on a besoin d'être ramené à une certaine humilité ou à une humilité certaine avant qu'on ne puisse progresser. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors quand je me moque de ceux qui sont autour de moi comme étant ignorants, quand je me moque de ceux qui sont autour de moi comme étant moins connaissants, moins savants que moi, je fais preuve d'orgueil et Dieu résiste à de telles personnes. Alors, faisons gaffe, faisons attention, prenons garde de ne pas tomber dans ce piège où on est emporté par notre orgueil, emporté par notre autosuffisance. Et à un moment donné, Dieu nous ramène à cet endroit où il nous rappelle que nous ne sommes qu'ignorants et que même ce que nous croyons avoir connu, su, saisi, assimilé, compris parfaitement, d'un seul clin d'œil, d'un seul claquement de doigts, Dieu peut supprimer toute cette connaissance, appuyer sur Delete, comme on l'a sur nos touches d'ordinateur ou sur la touche effacer, et en un seul claquement de doigts, une fraction de seconde, tout ce que je connaissais est parti. Dieu pourrait assurément provoquer une amnésie pour nous éviter l'orgueil. Alors prenons garde, tout ce que nous avons, tout ce que nous savons, tout ce que nous sommes reste une question de grâce. Une question de grâce. Et je répète encore, une question de grâce. Si tu sais aligner trois mots l'un après les autres aujourd'hui, c'est une question de grâce. Si tu sais prêcher aujourd'hui, c'est une question de grâce. Si tu sais évangéliser aujourd'hui, c'est une question de grâce. Si tu sais chanter aujourd'hui, c'est une question de grâce. Si tu sais réfléchir aujourd'hui, c'est une question de grâce. Et une grâce n'est jamais due à nous-mêmes, mais due à celui qui nous a fait grâce. Alors ne nous emportons pas par l'orgueil à penser que nous sommes autre chose que des disciples. Et nos frères, nos sœurs qui nous côtoient sont eux aussi des disciples. Assurément, Jésus avait des intimes dans son groupe, mais jamais il a dit que Pierre était supérieur à Matthieu. Jamais on nous dit que Jean, qui était appelé le disciple que Jésus aimait, jamais on nous dit. Et jamais Jésus ne l'élève par rapport aux autres. Jamais une génération de chrétiens a été plus chère au cœur de Christ qu'une autre génération. Il est mort équitablement et également pour tous. Il bénit tous et chacun. Il récompense tous et chacun de façon équitable. Et juste. Alors tout ce que je suis, tout ce que tu es, nous ne le sommes que par grâce et uniquement par grâce. Et je répète, faisons attention, Dieu résiste aux orgueilleux. Et si son disciple devient orgueilleux, Dieu n'a d'autre choix que de lui résister. Alors nous serons pour toujours des disciples. Des disciples, le terme mathétès, élève, étudiant, disciple, veut aussi dire apprenti. Un apprenti, c'était quelqu'un qui, à un moment donné, s'engageait pour une période ou pour une vie complète à recevoir l'enseignement d'un maître, à prendre la connaissance d'un maître et à appliquer la philosophie et la connaissance de ce maître. Lorsque nous sommes disciples de Christ, il y a donc cette étape importante de l'engagement. J'expliquais hier qu'à un moment donné, mon père est devenu apprenti cuisinier. À l'âge de 14 ans, si je ne m'abuse, et sinon il me corrigera, mais à l'âge de 14 ans, il est allé en apprentissage auprès de chefs qui ont permis que, avec le temps, il devienne lui-même cuisinier et éventuellement chef. Mais il s'est engagé auprès de ses chefs cuisiniers, auprès de ses maîtres en questions culinaires, et qui l'ont formé, qui lui ont appris comment couper une pomme de terre, comment tailler un oignon, comment émincer de l'ail, comment faire une druxelle de champignons, comment couper en dés ou en lamelles, en julienne, des carottes. Il est passé par chacune des étapes avant qu'il n'arrive au fourneau. Alors des patates, il en a pelé, il en a taillé, il en a coupé. Et à un moment donné, lorsqu'il avait acquis comment les choses se faisaient avec une pomme de terre, on lui a dit, maintenant tu vas essayer avec un radis, maintenant tu vas essayer avec une carotte. C'est l'expérience de tout apprenti en cuisine et qui s'engage auprès de son maître en disant, je vais apprendre ce que tu as. J'ai un ami qui, lui aussi, est devenu chef cuisinier et il me parle à l'occasion de ses voyages qu'il a faits après avoir étudié dans un institut ici au Québec, être parti en France et avoir été faire la tournée de différents restaurants importants auprès de chefs importants desquels il a acquis connaissance et sagesse. Assurément, on n'est pas en train de dire que vous devez trouver différents maîtres, différents pasteurs desquels vous succédez. Je connais quelqu'un qui a eu 36 pères spirituels et aucun d'entre eux n'est mort. C'est simplement que quand il était tanné d'un père spirituel, il le larguait puis il s'en prenait un autre qui lui satisfaisait un peu plus. Et une fois que celui-ci ne faisait plus son bonheur, il le quittait puis il allait vers un autre père spirituel. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Nous n'avons qu'un maître, Christ. Assurément, dans l'Église, il y a des gens qui occupent des positions, il y a des gens qui occupent des fonctions, qui ont des fonctions quant à éduquer, quant à enseigner, quant à former, quant à instruire le peuple de Dieu pour le préparer à servir. Mais au-delà de cela et au-delà des fonctions pastorales, apostoliques, évangéliques ou autres, le maître suprême reste Christ. Et nous devons nous engager auprès de lui en disant, Seigneur, je vais apprendre tout ce que tu veux que j'apprenne. Voyez, lorsqu'un apprenti arrive en cuisine, c'est le maître qui décide à quelle tâche il est affecté. C'est le maître qui décide quand il a assez fait cette tâche pour passer à une tâche un peu plus complexe ou à une tâche connexe. C'est le maître qui décide, le chef cuisinier, le chef de la brigade, qui décide quand il est apte à ne plus être sur le tabouret en train d'éplucher les pommes de terre, mais à toucher maintenant des pièces de viande. Et il y a certaines pièces de viande qui sont si précieuses que ça prend simplement des années et des années avant qu'on y touche. Quelqu'un qui devient un maître sushi, on parle d'environ 5 ans d'apprentissage. Et les 3 premières années, la personne ne touche pas au poisson. C'est simplement les 2 années suivantes de son apprentissage qu'il commence à toucher le poisson. Avant ça, il taille des concombres, il taille de l'algue, il s'entraîne sur des tomates. Et plus tard, les pièces de viande, les pièces de poisson en l'occurrence, pour un maître sushi, vont venir tout simplement la 4e et la 5e année. Le maître décide quelle est notre école. Le maître décide combien de temps on passe en classe. Le maître décide quand nous sommes rendus aptes à passer à une nouvelle étape. Certains vont dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque à ce moment-là qu'un pasteur s'oppose à la croissance d'un disciple? Ça, c'est accorder à un pasteur beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'importance et beaucoup trop de pouvoir et de puissance. J'aime parfois dire à quelqu'un, regarde, si Dieu veut t'élever, même si je m'oppose, il va t'élever. Et c'est une notion que j'avais de la misère à comprendre les premiers temps où j'ai commencé à servir. J'avais l'impression que le pasteur qui s'occupait de moi, qui était mon père spirituel, qui était mon leader dans la foi, j'avais l'impression que c'était lui qui devait voir à ce que je puisse grandir, que je puisse croître, que je puisse prendre mon envol. Et je me rappelle avoir des conversations avec lui et lui dire, mais pasteur, c'est à vous de faire ça. Et il me disait, mais Florent, si Dieu veut t'élever, même si moi je te bloquais, d'un claquement de doigts, Dieu me retire et il te fait passer. Nous ne sommes pas, même en tant que pasteur, assez puissants pour nous opposer à ce que Dieu veut faire. Alors si Dieu veut t'élever, un pasteur ne peut même pas te freiner. Et un pasteur qui assurément et reste à l'écoute de la voix de Dieu sera effectivement renseigné par le Seigneur, sera effectivement informé par Dieu quant aux procédures à suivre. Et même si le pasteur venait à ne pas avoir les connaissances dans tel ou tel domaine, ne pas avoir le savoir dans sa propre expérience sur comment faire avec tel ou tel disciple, n'oublions pas une chose. Le pasteur lui-même est un disciple qui apprend tous les jours de sa vie. Au même titre où nous, en tant que subalternes à quelqu'un, nous sommes aussi disciples. Mais tant notre pasteur que l'ensemble de la congrégation qui compose des disciples, nous sommes tous disciples du Maître Jésus. La grande problématique, c'est que en tant qu'apprenti, nous ne voulons pas nous engager. Trop de gens s'embarquent dans une tâche en disant « Oui, mais je ne veux pas donner mon nom parce qu'après ça, je vais être bloqué là. » Tu vas être bloqué là par qui? Par un homme? Par une congrégation? Par une direction? Ou par Dieu? Encore là, si Dieu veut t'amener à autre chose, est-ce qu'un pasteur peut t'en empêcher? Est-ce que une direction peut t'en empêcher? Si Dieu a appointé les choses, il ouvre les portes. Je vais vous parler d'un cas très personnel et on va s'arrêter sur cela ce matin. À un moment donné, dans ma fougue et dans mon manque de sagesse, j'ai pensé quitter l'Église. Alors que je sentais l'appel de Dieu, alors que je sentais que le Seigneur voulait m'utiliser, que j'étais bloqué, j'ai failli quitter l'Église. Et il y a une chose qui m'a empêché de le faire. Un jour, je me promène au bas de l'Église, dans le sous-sol, et j'entends deux personnes plus avancées que moi dans la foi, qui à l'époque occupaient des positions dans l'Église, alors que moi, je n'en occupais aucune. Et je les entends parler d'un jeune homme, à peu près mon âge, qui lui avait quitté l'Église pour les mêmes raisons que moi, pour les raisons avec lesquelles moi j'aurais voulu quitter l'Église, parce que je sentais que Dieu m'appelait. Et lorsque j'ai entendu ces deux personnes parler de ce jeune homme, ces deux personnes se mettaient à rire en disant « Mais on le connaît celui-là. Là, il se prend pour un grand quelqu'un aujourd'hui, mais on connaît ses failles, on connaît ses points faibles, on connaît les défauts qui l'habitent. » Et ils avaient raison dans toutes les critiques qu'ils apportaient concernant cette personne, peut-être pas dans la façon d'apporter ces critiques et dans le rire qu'ils avaient, mais de les entendre rire ce jour-là, j'ai pris la décision d'une chose. J'ai dit, Seigneur, si un jour j'étais appelé à quitter l'Église, Je ne veux pas que l'endroit qui m'a vu naître, lorsqu'ils entendent parler de moi, ils se mettent à rire. Mais je prie, Seigneur, que lorsqu'ils entendent parler de moi, ils se disent, c'est un enfant de la maison qui a bien grandi et qui travaille pour Dieu. J'ai compris aussi avec le temps que le verset où Jésus dit à ses disciples, nul n'est prophète dans sa patrie ou nul n'est prophète dans sa maison. Certains pensent que c'est ce que Jésus a dit, alors que Jésus n'a pas dit ça. Jésus se retrouve face à une opposition et en raison de cette opposition, il va dire, voilà pourquoi il est dit ou voilà pourquoi on dit, nul n'est prophète dans sa maison. Jésus n'a pas dit qu'il était impossible d'être prophète dans sa maison. Mais il a dit à cause de la difficulté et à cause de l'opposition, les hommes se sont mis à dire que nul n'était prophète dans sa maison. Alors j'ai compris ce jour-là, lorsque j'ai saisi ce verset, qu'il est possible d'être prophète dans sa maison. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas plus grand privilège dans ma vie aujourd'hui de servir Dieu dans l'église même où je suis né. Dans la foi. Et foncièrement, même tous ceux qui servent à titre de pasteur à l'Église sont nés à l'Église, dans l'Église, ont fait leur gaffe et leur apprentissage dans l'Église et aujourd'hui servent avec cet attachement testé, éprouvé. Et attester envers le corps de Christ. Et je peux vous parler en toute honnêteté avec au sujet de mes assistants. Et je peux vous dire que comme moi, nous comprenons que nous ne sommes que des disciples. Ayant un certain cheminement, ayant une certaine expérience, mais tout cela à cause de la grâce de Christ. Et on sert le peuple qui nous est amené à servir à cause de la grâce de Christ. Et foncièrement, nous regardons le Seigneur à tous les jours et on lui dit, Seigneur, dis-nous où aller. Dis-nous comment y aller. Dis-nous comment faire. Dis-nous combien de temps rester. Dis-nous avec qui. Dis-nous pour qui faire le travail. Nous ne sommes que tes disciples et tu es le maître. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Nous sommes disciples, toujours. Pour toujours. Seigneur, merci pour cette parole. J'espère qu'il ramène en chacun d'entre nous l'humilité qui doit habiter tes enfants. L'humilité qui doit habiter tes serviteurs. L'humilité qui doit habiter tout disciple. Nous sommes disciples, tu es le maître. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas fuir face aux difficultés, à ne pas fuir face à l'attente, à ne pas tomber dans l'insoumission, à ne pas tomber dans l'orgueil, à ne pas tomber dans l'arrogance. Seigneur, on prie peut-être pour certains qui sont peut-être effectivement tombés dans de tels pièges. Ta parole nous dit que tu résistes à celui qui est orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Nous prions, Seigneur, que dans cette quête qui est la leur, qu'ils puissent entendre ta voix et que leur cœur, Seigneur, s'adoucisse, que leur cœur, Seigneur, s'humilie devant toi. Afin, Seigneur, de rester docile, afin de rester malléable, et afin, Seigneur, d'être rempli de grâce et propageant ta grâce, et non la vanité qui s'empare si facilement de nous. Merci, Seigneur, de nous préserver de tels faux pas. Merci de nous garder l'esprit attentif à ces pièges que l'ennemi tend devant nous. Et que le côté néophyte du disciple fait en sorte que très souvent, on se fracasse le nez on tombe à la renverse parce qu'on n'a pas été prudent. Seigneur, nous sommes tes disciples et nous demeurons tes disciples. Tu es le Maître. Guide-nous, instruis-nous, apprends-nous, enseigne-nous, transforme-nous et mène-nous pas à pas. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. J'espère que cet enseignement vous a béni. Ce n'était pas du tout là où je m'en allais ce matin, donc cette conviction que j'ai tout simplement été un disciple ce matin, encore une fois, qui s'est laissé guider par le Maître, et j'espère que vous avez été béni. Comme ce n'est pas du tout ce que j'avais dans mon plan pour ce matin, j'ose croire qu'il y a des personnes qui devaient entendre ce qui a été enseigné ce matin. Alors, que celui qui a des oreilles entende ce que l'ange dit à l'Église. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce soir avec le pasteur André pour le cours sur le livre aux Éphésiens. Et sur ce, que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde.